Vous écoutez RTL.
I said I want to fuck her.
RTL.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie.
Non.
C'est... Non, non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser.
Il a dit...
Confidentiel, Whitney Houston.
T'auras pas de cigarette.
Jean-Alphonse Richard.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Confidentiel sur RTL. Une heure ensemble où l'on emprunte les chemins pas toujours droits et dégagés, suivis par des célébrités. Comme le commun des mortels, ces hommes, ces femmes brillent de mille feux à la lumière du succès, mais ont aussi leur part d'ombre, leurs doutes, leurs fractures et leurs tragédies. La chanteuse dont nous allons parler avait tout pour être la plus grande et la plus belle, une beauté lumineuse et une voix incomparable. C'était sans compter les pièges qui allaient surgir sur sa route, des écueils qui allaient finir par la briser. Lumière et crépuscule d'une diva moderne, Confidentiel Whitney Houston, c'est tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard. Confidentiel Whitney Houston sur RTL.
Success doesn't change your fame, does. You got a whole world of people calling your name and you really don't know them.
Whitney Houston ne fut jamais libre. Enfant, sa mère décida un jour qu'elle serait chanteuse. Adolescente, son père prit en main sa carrière. Puis la pire des conseillères, la drogue, finit par l'emprisonner. La nuit de la célébrité et des illusions se referma alors inexorablement sur la plus lumineuse des divas de la pop. Whitney Elizabeth Houston est née à Newark, pas très loin de New York, dans une famille habitée par la musique. Son père John est un ancien chauffeur de camion reconverti dans la production artistique, celle des nouvelles étoiles noires de la soul music. Sa mère, Cissy, est chanteuse. Elle dirige le chœur gospel de l'église baptiste de New Hope. Ainsi grandit Whitney Houston, surnommée Nippy par son père, un nom de personnage de dessin animé que la petite fille adore. « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'aimait plus que mon père. Je serai toujours sa petite fille », dira-t-elle plus tard. Whitney a seulement 4 ans à l'été 1967, quand la ville de Newark s'embrase. Les émeutes raciales font 26 morts et plus de 700 blessés. Son père a soutenu la contestation. Il sera bientôt l'un des artisans les plus en vue de la victoire du premier maire noir de la ville. Cissy Houston, la mère, a toujours rêvé d'un destin célèbre. Au milieu des années 60, elle a connu une renommée éphémère avec les Drinkard Sisters et une nièce qui, elle, fera carrière, Dionne Warwick.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by.
Cissy a également été choriste d'Elvis Presley, mais elle a laissé passer sa chance. Condamnée à n'être plus que l'âme chantante de l'église de New Hope et à rester dans l'ombre. Pressent-elle alors en sa fille Whitney celle qui la remplacera et que le monde entier écoutera? Je lui ai appris à chanter avec le cœur. Je lui ai tout montré, je lui ai tout appris, dit Cissy Houston. Elle ajoute, quand j'ai senti qu'elle était déterminée, je lui ai dit qu'il faudrait qu'elle se plie à une discipline de fer, des répétitions tous les jours, un travail pénible pour une technique irréprochable. Whitney a des cheveux courts, des boucles légères et un visage d'ange. C'est une élève sage sur les bancs de l'école des filles du Mont-Saint-Dominique. Ni fugueuse, ni capricieuse, elle grandit entre deux frères dans cette famille de la bourgeoisie noire aisée, la seule du quartier à posséder une piscine. Whitney est obéissante. Whitney vénère son père et écoute sa mère. « Ma mère me contrôlait parfaitement. J'aurais pu faire beaucoup plus de bêtises si je ne m'étais pas dit chaque fois « Ma mère va me tuer ». Sa mère guide ses pas, dicte sa conduite et lui sert de modèle pour monter sur scène. Quand je la regardais chanter à l'église, j'avais la chair de poule, confesse Whitney. L'Esprit Saint descendait sur toute l'assistance. C'était incroyable, c'était ce que je voulais faire. À la messe du dimanche, dans sa robe blanche, on ne voit vite plus qu'elle dans le cœur des femmes. Tout le monde chante, mais c'est elle qu'on entend. Elle a seulement 12 ans et Whitney Houston est la lumineuse vedette du chœur gospel Saint Luke. Un an auparavant, son père l'a entendu chanter dans cette église et a déjà imaginé sa carrière. Le destin de Whitney Houston lui fut alors confisqué, oiseau rare et précieux, enfermé dans une cage dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Début des années 80, Whitney Houston a 16 ans et court les cachets. Choriste remplaçante pour Jermaine Jackson ou les Neville Brothers et mannequin photo qui fait la couverture de revues pour adolescentes. Le président des disques Arista, Clive Davis, a flashé sur cette adolescente sans maquillage et dénuée de sophistication. Le vieux gourou de la chanson US qui a découvert Santana et Janis Joplin sait qu'il tient là une révélation. Mais il va prendre son temps pour fabriquer une idole universelle qui plaira à tout le monde. Ni trop blanche, ni trop noire. C'est ce personnage que le patron d'Arista veut voir émerger. Pas question que Whitney soit une star noire réservée à un seul public. Surtout, ne pas créer un James Brown féminin. C'est le mot d'ordre de la maison de disques. Whitney Houston sera donc une nouvelle Mariah Carey ou une digne héritière de Barbra Streisand. Pas question que ce jeune talent soit une énième chanteuse R&B. Sa musique sera de la pop, comme celle qui rend alors célèbres les Madonna et Michael Jackson. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no. Pendant 2 ans, Whitney Houston va donc faire l'objet d'un lancement sans précédent. On la teste sur des petites scènes confidentielles. On étudie les réactions du public. On rectifie son allure. On construit sa silhouette. Le producteur Clive Davis, que Whitney considère comme son père, joue les protecteurs et les apprentis sorciers. À 19 ans, la créature Whitney fait sa première télévision. Elle se retrouve aussitôt en pleine lumière. Le patron d'Arista a injecté $400,000 pour lancer ce premier album, simplement baptisé Whitney Houston. Et il a eu le nez creux. En quelques jours, Whitney Houston devient la star la plus rentable du moment. Près de 25 millions d'exemplaires vendus. La tournée qui suit s'appelle le Greatest Love Tour. 5 mois, 50 scènes, États-Unis, Europe, Japon, Océanie. Jamais une débutante n'avait à ce point brillé et gagné autant d'argent. Le monde est au pied de celle qui, quelques mois plus tôt, était encore une parfaite inconnue.
When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. I wish I was home. I wish I could go back there with the things I've been known.
Whitney Houston sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans les premiers pas donc de Whitney Houston, une voix déjà incroyable. On parle de la naissance de cette diva dans ce confidentiel Whitney Houston avec notre invité Xavier Bonnet. Bonjour et bienvenue sur RTL.
Merci de votre accueil. Bonjour.
Bonjour à vous. Xavier Bonnet, vous êtes journaliste à la revue Rolling Stone. À quoi ressemble finalement cette famille Houston, ce cocon dans lequel Whitney va grandir et va commencer à chanter ?
Ben, c'est une famille où la musique est d'emblée présente, puisque Cissy Houston, sa mère, est choriste. Très tôt, elle va l'embarquer dans l'église baptiste dont elle s'occupe. Whitney va être choriste très très tôt, je crois vers les 7-8 ans. Mm-hmm. À un moment de sa carrière, Cissy essaye un virage disco, puisque la soul ne marche plus vraiment. Et un jour, il y a une choriste qui est malade, et elle propose au producteur de faire venir sa fille, qui a 14 ans, qui fait les chœurs sur ce disque disco, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Après, elle va l'embarquer sur ses propres concerts, Cissy Houston, en lui donnant à Whitney une partie pour elle, où elle peut chanter. Comme certaines mamans de joueuses de tennis, Cissy va tout faire pour que sa fille connaisse le stade supérieur à celui qu'elle n'a pas connu.
Alors, Whitney Houston, vous l'avez dit, c'est sa mère qui va la fabriquer, puis il va y avoir aussi sa maison de disques. À aucun moment, on a l'impression qu'elle aura son mot à dire, Whitney Houston.
Oui, mais par caractère, c'est pas ce qu'elle voulait au départ. Sache qu'effectivement, quand elle est signée par Arista, par Clive Davis, qui est une personne très importante, au-delà même de la musique, dans la communauté noire, c'est-à-dire que ça fait partie de ces noirs qui ont réussi. Donc en fait, tout le monde va se mettre sur la pépite Whitney pour essayer de faire avancer l'histoire. Et Clive Davis, qui est effectivement le patron d'Arista, va aussi modeler son artiste, mais j'ai envie de dire avec la propre bénédiction de l'artiste. C'est-à-dire que, en gros, elle est très contente que quelqu'un la drive, et quelqu'un d'autre que maman. Clive Davis va être une autre famille, ça va être un autre papa.
Un mot sur Whitney Houston, toute jeune qui débute, à quoi est-ce qu'elle ressemble ?
C'est une jeune demoiselle justement qui a la fraîcheur et ce côté un peu métisse par défaut, c'est pas une métisse hein, une fois de plus, mais et donc qui peut provoquer un regard chez les communautés noires et blanches.
Et ce qui ressort de cette toute jeune Whitney Houston, et ça ne sera plus le cas par la suite, c'est une immense joie. Il y a beaucoup de lumière chez elle.
Oui, mais qui va disparaître beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, en fait. L'innocence disparaît, en fait, très très vite chez Whitney Houston.
Confidentiel Whitney Houston sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
Whitney Houston triomphe, mais l'escalier qui monte vers la célébrité est abrupt et dangereux. La communauté noire du spectacle ne voit pas d'un très bon œil cette révélation. Le magazine Time a beau écrire « Regardez-la, c'est Miss Black America », rien n'y fait. Les Blacks ne la trouvent pas assez Black, pas assez R&B et beaucoup trop pop. Ce désamour va aller crescendo. On la surnommera méchamment Whitney, qui pourrait se traduire par Blanchette, et on racontera qu'elle est vendue à des producteurs blancs. Whitney Houston ne cessera de souffrir de ces attaques. Pas assez noire ou pas assez blanche, selon les regards des uns ou des autres. Elle ne cessera de courir après son identité sans jamais savoir laquelle adopter, perdue. Whitney Houston triomphe, mais la nouvelle diva est jeune, fragile, pétrie de doutes et d'appréhensions. Elle a 20 ans, mais au fond d'elle-même, elle a encore besoin d'être réconfortée et aimée comme une petite fille. Whatever you want, whatever you... Dans cet univers où tout tourbillonne autour d'elle, la drogue devient le moyen illusoire d'échapper à la pression, de dévier de cette trajectoire qu'elle n'a pas choisie. C'est l'un de ses deux frères, Michael, qui l'a initiée à la cocaïne. « Nous étions ensemble la plupart du temps et elle m'a suivi », dira-t-il bien après la mort de la diva. « Je vis avec ce démon tous les jours et je vivrai avec tous les jours du reste de ma vie ». La marijuana, la cocaïne et un jour le crack seront désormais les compagnons d'infortune de Whitney Houston. Tout le monde ferme les yeux sur cette addiction qui ne serait au fond que récréative, habituelle et presque banale dans le showbiz. Seule, la présence de Robin Crawford, une amie d'enfance, permet à Whitney de modérer ses mauvais penchants. Elles se sont connues quand elles avaient une quinzaine d'années, sur les bancs de l'école. Robin, un peu plus âgé et plus costaud que Whitney, a toujours joué les anges protecteurs, rassurante conseillère et bientôt le seul repère affectif, la seule personne en qui elle peut avoir confiance. Remember when we held on in the rain, the nights we almost lost it. Si la presse à scandale mettra du temps à s'intéresser à la consommation de drogue de la chanteuse, elle jasera rapidement sur le couple Whitney-Robin, soupçonné d'homosexualité. Une liaison encore taboue dans ces années 80. Un impossible aveu pour Whitney qui, avec sa famille et sa maison de disques, a passé un pacte tacite. Apparaître comme la fille parfaite, la copine idéale, fiancée fraîche et optimiste de l'Amérique de Ronald Reagan. En public, Whitney Houston ne fera donc aucun écart. Pas de provoque, pas de photos titubantes en sortie de boîte de nuit, pas de frasques amoureuses. Avec elle, tout doit être le plus lisse possible. Pourtant, 2 ans seulement après ses premiers succès, elle n'est déjà plus la même. Pour la sortie du deuxième album, baptisé de son seul prénom, Whitney, elle apparaît plus rigide, moins souriante, plus tendue lors des enregistrements, plus catégorique aussi. À un ingénieur du son qui lui demande si elle a le trac, elle réplique aussitôt « Pas le moindre trac, si le public a aimé mon premier album, il aimera celui-là aussi. » La chanteuse ne se trompera pas, Whitney sera lui aussi un succès planétaire.
Spilling out.
confidentiel Whitney Houston sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Whitney Houston est en haut de l'affiche, mais le doute en elle n'a jamais été aussi fort. Musicalement, il lui arrive de vouloir retourner aux sources du gospel et de la soul, mais ce sont toujours des mélodies pop qu'on lui réserve. Elle rêve aussi d'écrire elle-même ses chansons, comme le font Madonna ou Janet Jackson. On lui rétorque que ça n'est pas pour elle. Seule sa voix compte. Whitney est et restera une interprète de génie comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou Barbara Streisand. Whitney Houston a 26 ans, les critiques de sa communauté n'ont jamais été aussi pesantes. Ce 13 avril 1989, elle est sifflée lors de la remise du prix Soul Train, l'émission culte de la musique noire américaine. Depuis les balcons du Shrine Auditorium de Los Angeles, elle se fait traiter de sale blanche. Elle est choquée, mais ne préfère retenir de cette soirée qu'une rencontre. Il a 20 ans et s'appelle Bobby Brown. C'est un rappeur, mauvais garçon des mauvais quartiers de Boston, devenu célèbre grâce à un seul tube. Bobby Brown, tout jeune, a déjà 3 enfants avec 2 femmes différentes. Bobby Brown sera éternellement accusé d'avoir été le mauvais génie de Whitney Houston, celui qui allait à jamais la faire sombrer dans la cocaïne. Whitney Houston et Bobby Brown ou l'histoire d'un naufrage programmé. Si la chanteuse a eu quelques aventures, elle est notamment sortie avec Eddie Murphy, cette fois c'est sa première histoire sérieuse. Très vite, Whitney et Bobby sont inséparables et partagent leur démon préféré. Cocaïne pour elle, alcool pour lui. On se ressemble, on vient de quartiers identiques, même nos parents respectifs se ressemblent, dit-elle. Quand vous aimez, vous aimez.
Yeah. All right. Hey, you know what? Yeah. Mama. Uh-huh. Hey, you know, baby. It's been 10 years since we've been married, right?
Well, well, well.
What do you think it's gonna make it? Come on, baby. Sing.
My love.
3 ans après le coup de foudre, le couple se marie. Au nom de l'amour, comme le clame Whitney Houston dans toutes ses interviews, ou au nom de la raison et des faux-semblants, comme disent les journaux, histoire de prouver que Robin Crawford, qui la suit comme son ombre, n'est que sa meilleure conseillère et en aucun cas son amante. « Nous sommes amis depuis que nous sommes petites. Elle est mon employée, je suis sa patronne et nous sommes les meilleurs amis du monde. Pourquoi est-ce que je chercherais à montrer autre chose en me mariant avec Bobby ?» s'interroge Whitney. Avec ce mariage, Whitney Houston tue officiellement les spéculations sur son homosexualité. La naissance de la petite Bobby Christina sera bientôt la dernière touche à ce tableau d'une famille comme les autres. Whitney, qui depuis l'enfance a appris à obéir, sauvera une fois encore les apparences. Mais pour combien de temps ?
As I lay me down. Heaven hear me now.
Confidentiel, Whitney Houston sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Cette célébrité qui est donc si vite devenue une prison pour Whitney Houston, toujours avec nous dans ce studio RTL, Xavier Bonnet, journaliste à Rolling Stone. Whitney Houston est-elle d'entrée la nouvelle fiancée de l'Amérique ?
Oui, mais ça ne va pas durer très longtemps. C'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est même la force de Whitney Houston, quand elle est avec le premier album, d'intéresser tout le monde. Mais très vite, ça va se retourner contre elle, parce que le premier album date de 85, le deuxième album de 87 va marcher, le troisième va déjà... On va la faire s'orienter vers quelque chose de plus black, alors que c'est plus la pop qui rejoint la soul des premiers albums. Et même si elle y trouve de l'intérêt artistique, elle va vite s'y noyer puisque c'est pas non plus fondamentalement ce que le public qui a fait marcher les disques veut entendre chez elle.
Et cette histoire de couleur de peau, c'est une vraie blessure pour Whitney Houston.
Bien sûr, c'est une vraie blessure et je pense que ça en a réveillé d'autres.
Lesquelles ?
Si vous avez vu le documentaire de Kevin MacDonald qui est sorti il y a quelques mois, il y a cette bombe qu'il lâche dans le film comme quoi elle aurait été agressée sexuellement par sa tante, qui est la sœur de Dionne Warwick, qui a été démentie par Dionne Warwick et aussi par sa mère. Mais quelque part, beaucoup de gens ont pris ça pas pour argent comptant, mais effectivement comme une sorte d'explication à tous les déséquilibres qu'elle pouvait connaître.
Avec la drogue, évidemment, on ne peut pas éviter d'en parler avec Whitney Houston. C'est un petit peu le fil rouge dramatique de son existence. Ce mari, Bobby Brown, qui va être finalement le coupable désigné de cette dérive. C'est vrai ou c'est faux, l'influence de Bobby Brown sur Whitney Houston ?
Elle est vraie, mais quelque part, Whitney Houston y trouvait son compte aussi, puisque pour la première fois aussi, elle s'émancipait de la famille avec quelqu'un qui avait une image un peu sulfureuse. Et qui correspondait aussi un peu à une part de sa personnalité. Quelqu'un qui était un peu borderline. Et ce côté un peu rebelle contre l'autorité ou contre la norme, elle a aussi toujours eu ça en elle.
Est-ce qu'on sait le moment où tout s'écroule pour Whitney Houston ? Est-ce qu'il y a un signe où on sent que les choses sont en train de lui échapper ?
Mais il y a un mélange de plusieurs choses. Il y a effectivement cette cérémonie aux Soul Awards qui est vraiment importante. C'est une vraie claque. Et je pense qu'effectivement, à partir de là, il y a une volonté de se démarquer de cette image un peu trop proprette, un peu trop idéale qu'on a voulu donner et qui lui est revenue dans la face, quelque part, comme un boomerang.
Et quel gâchis, parce qu'avec cette voix aussi qui lui échappe.
Oui, il y a juste eu effectivement quelques éclaircies vers la toute fin pour les enregistrements de Sparkle, qui est le dernier film qu'elle a fait. Et Jean qui raconte qu'effectivement, à de très très brefs moments pendant les enregistrements, on retrouvait la Whitney des débuts, et ça ne durait pas.
Dans un instant, retour de Confidentiel Whitney Houston sur RTL avec Jean-Alphonse Richard. Confidentiel Whitney Houston sur RTL.
Whitney Houston est au sommet de sa beauté, riche, convoitée. En cette année 1992, elle va devenir universellement célèbre. Retenue pour jouer une star glamour harcelée par un psychopathe. Son apparition dans Bodyguard lui donne soudain une autre dimension. À la dernière minute, la star du film, Kevin Costner, a eu l'idée de lui faire chanter a cappella un succès de Dolly Parton. La chanson va faire le film. 411 millions de dollars de recettes et faire accéder Whitney au statut d'icône, désirable et chahutée. Whitney était connue, elle découvre désormais la folie furieuse de la célébrité. That is all I'm taking with me. 4 ans après Bodyguard, elle dressera ce constat désabusé. Le succès ne vous change pas, la célébrité oui. Des tas de gens vous interpellent. Ni la célébrité, ni l'argent ne vous rendent heureux, jamais. Rien ne préparait la fragile Whitney Houston à une route aussi chaotique. Les excès, les obligations, la terreur permanente de ne jamais être à la hauteur commencent à la faire tituber. La vie avec Bobby Brown, qui multiplie les infidélités, se révèle de plus en plus déjantée. Les tournées sont harassantes. Overdose de cocaïne lors du tournage de son deuxième film « Où sont les hommes ?». Ses parents, ses producteurs, son entourage ferment les yeux. Un jour, pour la sortie d'un nouvel album, la foule se masse sur Times Square à New York. Whitney n'est pas là. On la retrouve réfugiée au sous-sol d'un magasin en train de lire des bandes dessinées. En cette année 1999, Whitney Houston annule 5 shows. Officiellement, elle souffre d'angine à répétition. On surprend son père John en train de sangloter dans l'une des loges. La chanteuse a un mal fou à terminer la tournée aux Pays-Bas. La suivante à Singapour sera désastreuse. En ce début des années 2000, la descente est vertigineuse. À la répétition de la 72e cérémonie des Oscars, elle apparaît totalement absente, se trompe même de chanson. Elle sera remplacée en dernière minute par une chanteuse de country, prestation officiellement annulée à cause d'un mauvais rhume.
reaching for my dreams and you're so quick to say what I can't do.
Whitney Houston n'a plus la même voix. Les excès l'ont rendue rauque, presque douloureuse. Ses cheveux et ses ongles ont du mal à pousser. Elle paraît épuisée. Sur scène, invitée à un concert de Michael Jackson, elle est apparue famélique, d'une maigreur presque inquiétante. C'est le temps de tous les malheurs. Robin Crawford, l'amie la plus intime, la seule qui parvenait à lui apporter un soupçon d'équilibre, n'est plus un odeur de sainteté dans le clan Houston. Elle s'en va. Clive Davis, le producteur de la première heure, celui en qui elle voyait un second père, est éjecté de la maison de disques. Même son propre père se retourne contre elle. Il réclame à Whitney 100 millions de dollars pour une sombre histoire de royalties non payées. John Houston mourra sur un lit d'hôpital en 2003 à 81 ans, sans s'être réconcilié avec sa fille, écrasée de douleur. Un an avant la mort de son père, la chanteuse était apparue en larmes à la télévision. Elle cherchait ses mots, admettait avoir consommé de la drogue. Whitney Houston avait déjà perdu pied, envoyait des appels à l'aide que personne ne voulait entendre. À la question qui lui est posée, « Quel est le pire de vos démons ?» Elle répond, tremblante, les yeux pleins de larmes, « Le pire démon, c'est moi-même. »
Confidentiel Whitney Houston sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Whitney Houston court après sa jeunesse trop vite fanée. Elle aimerait que tout soit comme avant. Elle part en Jamaïque en cure de désintoxication. Elle est presque méconnaissable. Elle a emmené sur place sa fille et son mari Bobby Brown. Dans quelques mois, après des années de tumulte, ils se sépareront puis divorceront. Whitney Houston ne reviendra jamais dans la lumière. Elle s'enferme dans la névrose et la culpabilité, persuadée, elle, la fille de la chapelle Saint-Luc, d'avoir offensé Dieu Tout-Puissant avec ses excès et sa vie de débauche. Le nouvel album qui devait marquer le retour triomphal de l'icône des années 90, « I Look To You » est un échec. Aucun tube marquant. D'autres stars plus insolentes, Lady Gaga ou Miley Cyrus, lui voleront la vedette. La grande tournée mondiale 2010, la première depuis 10 ans, est un fiasco. En Australie, dès la troisième chanson, sa voix se voile puis disparaît. Tous les soirs, elle montait sur scène comme un champion pour donner le meilleur d'elle-même, dira Aretha Franklin, mais elle n'y arrivait pas. Whitney n'est plus dans le coup.
Why should I feel discouraged?
Quelques mois avant sa mort, elle réalise un rêve d'enfant. Elle tourne le remake de Sparkle, un film musical des années 50, l'histoire de trois sœurs dans une chorale de Harlem. À la soirée de la première, elle est resplendissante. On pourrait penser que cette fois, elle est en train de renaître. Mais ce n'est qu'une illusion, une lueur aussitôt éteinte. 3 mois plus tard, Whitney Houston, 48 ans, est invitée à Los Angeles à la remise des Grammy Awards. Ce samedi 11 février 2012, elle doit participer le soir au dîner d'ouverture de la cérémonie. Dans l'après-midi, à 15h15, sa mère lui parle au téléphone. Elle répond qu'elles seront bien ensemble à la même table. Mais Whitney ne viendra jamais au rendez-vous. 15 minutes plus tard, elle arrête de respirer. On la retrouve dans la baignoire. L'autopsie conclura à un accident cardiaque dû aux excès de cocaïne. Dans son sang, des traces de marijuana, de médicaments et de produits relaxants. Sa fille Bobby Christina, qui l'accompagnait ce jour-là, mourra 3 ans plus tard de la même façon. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous ? Demanda-t-on un jour à Whitney Houston, alors qu'elle commençait tout juste à être célèbre. Savait-elle alors que son image parfaite serait un jour abîmée ? Pressentait-elle qu'elle ne pourrait pas résister au flot qui allait l'emporter ? En souriant, Whitney répondit, « Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme une bonne personne. »
Confidentiel Whitney Houston sur RTL, Jean-Alphonse Richard.
Voilà donc pour la vie d'ombre et de lumière de Whitney Houston. On va conclure ce confidentiel toujours avec nous, Xavier Bonnet du journal Rolling Stone. Whitney Houston, dans les derniers mois, les dernières semaines de la vie, il n'y a plus personne autour d'elle, on a l'impression.
Je ne suis pas si sûr que ce soit aussi catégorique. Je ne suis pas sûr qu'elle soit seule. Elle continue à travailler, puisque les séances de Spark, le dernier film, c'est en novembre. Mm-hmm. Elle meurt en février. Donc au contraire, il y a même presque une sorte de réveil sur la fin, mais c'est un yo-yo. Il y a un parallèle formidable entre le destin de Whitney Houston et celui de Michael Jackson. Deux personnes qu'on a voulu modeler dès l'enfance, qui ont cherché un moment à se démarquer de ça, qu'ont fait les mauvais choix personnels, et avec le sentiment à la fin, effectivement, d'une mort prématurée, et surtout d'un immense gâchis pour l'un comme pour l'autre.
Et il y a aussi, Xavier Bonnet, il faut en parler, le bonheur et le drame de sa fille.
Qui va vivre les mêmes déséquilibres que sa mère, d'une certaine façon, dès sa naissance. La tragédie, elle est double pour elle-même, et surtout la façon dont c'est un calque en accéléré de celui de sa mère. Comment on se retrouve étant gamine, effectivement, entre les bagarres incessantes de papa et maman, sous drogue, sous alcool, et qu'on finit, effectivement, dans une baignoire, à mourir dans les exactes mêmes circonstances que sa mère, à peine 3 ans plus tard. C'est assez troublant, et je pense que c'est la très mauvaise conclusion du destin de Whitney Houston.
Quelle empreinte laisse Whitney Houston sur la pop moderne ?
Je pense qu'effectivement, elle a lancé en fait toute une vague de chanteuses qui chantaient très fort. Mais à un autre niveau, aux États-Unis, il y a un élément qui est très très important, c'est la façon dont elle avait interprété l'hymne américain au Super Bowl en 91. Quelque part, sa façon de le faire ce jour-là a déterminé tout les autres Super Bowls, et quelque part la façon dont il faut chanter l'hymne américain aujourd'hui en public. Donc cette trace-là, il y a des chansons. Voilà. Ce qui reste sur des artistes, de toute façon, là-bas, c'est des chansons. Et sur Whitney Houston, il y a au moins une dizaine de chansons où dès que les premières notes sonnent, tout le monde les reconnaît.
Tout le monde les reconnaît, voilà. Bien sûr. Est-ce qu'elle avait justement encore des projets avant de mourir, des rêves, des travaux en préparation? Est-ce qu'on sait cela?
Il y avait plus ou moins un album sur lequel elle devait travailler, mais à quelle étape on en était à ce moment-là, ça je ne pourrais pas vous le dire.
Merci Xavier Bonnet pour votre regard sur la carrière courte, tumultueuse et bouleversante de Whitney Houston. Confidentiel, c'est terminé. Mais je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, avec celui qui fut l'homme orchestre du spectacle français, l'étonnant et secret Jean-Claude Brialy.